De midi à 13h, Sophie Davant sur M Radio.
Bonjour à tous, acteurs, auteurs, metteurs en scène, réalisateurs, scénaristes, ce touche-à-tout, curieux, incontournable, a débuté à 15 ans quand il s'est inscrit au Conservatoire municipal du 18e arrondissement de Paris, puis il a suivi les cours Florent, il a ensuite été sociétaire de la Comédie Française, une carrière qu'il partage aussi avec le cinéma. Son deuxième amour, vous l'avez deviné, c'est Francis Huster, mon invité aujourd'hui. Bonjour Francis.
Bonjour.
Ravi de revenir avec vous sur votre parcours, sur les rencontres qui l'ont jalonné et sur votre actualité. Depuis le 19 janvier, vous êtes sur la scène du Théâtre des Nouveautés avec Les Pigeons, une pièce écrite par Michel Leeb. Sa première pièce, je crois.
Michel, c'est quelqu'un qui est un peu un arc-en-ciel dans notre métier, comme étaient Fernand Reynaud, Robert Lamoureux, Raymond Devos. Il a tout fait, il a fait du music-hall, il a triomphé partout dans le monde. Et il a cette passion pour le théâtre, mais surtout pour le théâtre à partager avec le public. C'est quelqu'un qui pourrait très bien jouer des grands rôles dramatiques. Il en a fait d'ailleurs, comme 12 hommes en colère. Il pourrait être un merveilleux comédien dans du Tchekhov, mais là... Ce qu'il y a d'incroyable dans cette pièce, c'est qu'au lieu de faire simplement une trame normale, le mari, la femme, l'amant, il a vraiment essayé de surprendre et le succès, il le mérite vraiment.
Alors, c'est l'histoire de deux acteurs de second plan.
Des ringards,
des losers. Alors, c'est drôle parce qu'évidemment, quand c'est vous et Michel que l'on retrouve sur scène, on a l'impression que vous parlez de vous au dixième degré, en vous moquant de vous, de votre carrière, de ce métier. Qu'est-ce que vous diriez de ces deux personnages? Ils ont la soixantaine, ils se connaissent depuis toujours. On peut parler de 40 ans d'amitié et de rivalité quand même professionnelle.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux copains qui, bien évidemment, sont croisés des centaines de fois dans tous les petits rôles qu'ils ont faits au théâtre ou au cinéma. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a vécu une histoire d'amour complètement folle avec une jeune fille sublissime. Quand elle avait 20 ans, elle était là, elle était folle amoureuse de lui, sauf qu'il était marié. Et comme il est juif, il n'a pas le droit, dans la religion juive, de détruire un foyer. Donc, il a gardé cette jeune maîtresse pendant des années, et puis, du jour au lendemain, elle a foutu le camp. Elle a disparu. Lui, il a donc eu ce drame dans sa vie. Il continue avec sa femme, et il continue à faire son métier le mieux possible. Et l'autre, au contraire, c'est un séducteur. Ça, c'est moi. Et l'autre, au contraire, Michel, c'est le séducteur qui s'est tapé toutes les figurantes, qui est là et qui a rêvé toute sa vie d'être une star.
Mais qui est ringard.
Qui rate tout.
Tout. On peut aller vous applaudir donc tous les soirs à 21h. On va vous découvrir, Francis, à travers les rencontres donc qui ont jalonné votre parcours et puis à travers vos choix musicaux. Alors là, j'étais très surprise de découvrir les titres que vous avez sélectionnés. C'est très éclectique, c'est le moins qu'on puisse dire. On commence avec Michel Berger, la groupie du pianiste.
Michel Berger, c'est un ange sur la terre. Lui aussi a une vie tellement déchirée, sa vie privée, et j'étais en fait élève au conservatoire d'art dramatique municipal, là, au lycée Carnot, que dirigeait sa maman Annette Haas-Amburger. Et dès que la carrière de Michel Berger a commencé, j'ai vraiment regardé ce garçon comme le Gainsbourg de sa génération.
On l'écoute, Michel Berger, c'est le choix de Francis Huster, mon invité, jusqu'à 13h sur M Radio.
Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir, la copie du pianiste.
Sophie Davant reçoit Francis Huster, jusqu'à 13h sur M Radio.
Allez l'applaudir, Francis Huster, aux côtés de Michel Leeb dans Les Pigeons, une pièce savoureuse. C'est au Théâtre des Nouveautés et vous allez vous régaler en voyant ces deux grands complices dialoguer sur scène. C'est un grand plaisir. Vous gardez quel souvenir de votre enfance? Vous avez grandi à Paris?
J'ai grandi à Paris, mais je garde le souvenir de des nuits que j'ai passées sous mes draps avec une lampe de poche. Pour lire pendant 2 ou 3 heures chaque nuit tout ce qui a construit en fait mon caractère, mon admiration pour les héros, Napoléon, De Gaulle, Churchill,
Molière.
Dès tout petit, parce que mon père...
Ça vient d'où
Ça vient de mon père parce qu'il avait, pendant la guerre, il était dans l'aviation, il avait été en Angleterre. Et j'étais très frappé par le fait qu'il ne voulait jamais en parler de ce qui s'était passé pendant la guerre. Mmh. Mon grand-père, lui, il était évidemment juif et déporté à Auschwitz et il est mort là-bas. Mmh. Et ma mère, elle était résistante et mon père et ma mère avaient aucun rapport. Ma mère, c'était un peu le style Marilyn Monroe, Lynn Renault, une femme comme ça, blonde aux yeux clairs.
Ils faisaient quoi, vos parents?
Ma mère, elle était dans un atelier de couture. Mmh. Et mon père, lui, c'était la folie des vélos, des voitures. Et toute sa vie, il l'a passé dans des voitures. Sa vraie passion, c'était la moto. Quand j'ai eu, par exemple, mon premier bac, il m'a, comme récompense, il m'a fait faire le tour de l'Angleterre. Sauf que j'ai rien vu parce que j'étais assis derrière lui dans la moto. À cette époque-là, on allait à 220 à l'heure. On a failli avoir je ne sais combien d'accidents. Et cette passion pour l'histoire en arrière a fait que quand j'étais à l'école Louvois, à l'école communale ou après au lycée Carnot, j'étais premier de la classe ou chef de classe ou etc. Et on me surnommait le petit Napoléon parce que j'avais l'impression que j'étais fait pour diriger, pour commander, j'avais un caractère très indépendant.
C'était Napoléon votre idole?
J'ai toujours eu énormément et Churchill et Napoléon, mais Molière m'ont toujours marqué parce que j'ai trouvé qu'ils avaient deux vies en une. Mmh. C'est-à-dire que Molière, il y a Molière, le comédien, et Poquelin, l'auteur. Churchill, il y a Winston, celui qui manque de mourir pendant la guerre des Boers, ce militaire héroïque. Et puis ce premier ministre britannique qui va sauver le monde. Mmh. Et la double personnalité aussi de Charles de Gaulle, à la fois ce militaire têtu, certain que l'aviation pourrait sauver le monde, et il avait raison. Et puis il y a cet homme politique absolument incroyable qui, alors qu'il est gaulliste, alors qu'il est donc plutôt vers la droite, va prendre énormément de personnalités de gauche pour construire avec lui la France.
Vous avez choisi Zaz.
Elle est adorable, elle est magnifique. C'est une fille qui, non seulement pour sa passion écologique, etc. et tout, se bat pour les gens, mais je trouve qu'elle a justement ce qu'avait la môme Piaf. C'est-à-dire elle a un clan, elle a un univers. J'espère pour elle qu'elle gardera toujours cette espèce de sympathie, de lumière.
Dingue.
Tout est positif chez elle.
Ébloui par la nuit, c'est le titre de Zaz que vous avez choisi. On l'écoute sur M Radio.
Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle. A frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingles.
Ce samedi, Sophie Davant reçoit Francis Huster, actuellement au Théâtre des Nouveautés dans Les Pigeons, aux côtés de Michel Leeb.
Le théâtre est venu quand alors?
Le théâtre, c'est vraiment, alors c'est la main de Dieu, parce que je devais pas du tout faire du théâtre, je devais être médecin, je devais être chirurgien.
Pourquoi vous deviez? Sur injonction familiale.
Oui, pour mon père, je devais devenir médecin, pour ma mère, je devais devenir pianiste ou avocat, et donc je faisais du piano, et puis j'étudiais beaucoup de textes grecs et romains, de justice, et puis finalement, je me suis cassé la jambe au ski, et comme je pouvais plus aller avec le reste au lycée Carnot, au football, les après-midi où il y avait sport, et j'ai suivi la voie de rentrer dans une des salles de classe du lycée Carnot où il y avait ce jeune François Florent, et c'est là où j'ai rencontré mes amis Jacques Weber, Jacques Piessert.
À quel âge alors?
C'était 16 ans.
Vous avez eu une révélation?
Oui.
Au cours Florent?
Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je pouvais échapper au vrai monde en rentrant dans un monde irréel. Ça fait quand même toute ma vie que je passe 5 à 6 heures par jour dans un autre monde que le monde réel. Apprendre des rôles, jouer au théâtre, jouer devant la caméra, c'est pas ta vraie vie. Et moi, c'est devenu, comme la plupart des acteurs, ma vraie vie.
Et footballeur professionnel, ça vous aurait pas plu?
Ça m'aurait énormément plu d'être entraîneur.
Ah bon?
Footballeur, j'ai toujours été, j'ai joué énormément pendant 20 ans avec justement Pierre Ruth, le Racing Club de l'Allemagne.
Vous parlez de Pierre Ruth. Alors, il faut dire qui est Pierre Ruth. C'était notre dentiste commun.
Il était magnifique.
Et qui adorait le foot.
Il adorait.
Et qui était,
hongrois. Il venait de Hongrie pendant la guerre.
Oui, mais il était responsable
du Racing Club de l'Allemagne. Et puis, il a surtout été pour l'hôpital, le centre Pierre Ruth. Il a été un homme de bienfaisance vraiment à travers le monde. Et
alors c'était un dentiste qui arpentait la vie montagne et qui distribuait sa carte de visite. C'est comme ça que je suis allée le voir.
Tout le métier le connaissait.
Et vous arriviez chez lui et il y avait des vitrines avec des dentiers. Alors il y avait Michel Platini, Francis Huster, les dentiers en moulé de tous les gens qui soignaient. J'avais jamais vu ça de ma vie.
Et son épouse Françoise Poussy, qui est une femme héroïque, et c'est son fils James Sud qui est devenu le grand metteur en scène de comédie, justement.
De Bryce de Nice, notamment.
Et en fait, pourquoi entraîneur de football? Parce que je pensais que le football était comme la vie. C'était une telle leçon, et ça l'est toujours. C'est pas forcément le meilleur qui gagne. Tu crois que tu vas gagner le match à 5 minutes de la fin, tu es battu. Tu crois que tu es battu à 5 minutes de la fin, tu peux sauver le match. C'est comme la vie, et l'arbitre, comme la police, il peut se tromper.
Donc vous suivez tous les matchs, toujours?
Je suis tous les matchs, et je pense d'ailleurs, mais alors peut-être c'est un buzz, je sais pas si on peut le faire un samedi, devant tout le monde, mais il y a des fois, je me lève le matin, ça m'est arrivé 3 fois, là, et je vois Mbappé, président de la République. Non, mais c'est-à-dire que Mbappé, mais on va voir, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais qui aurait pu imaginer tout d'un coup qu'un comédien en Ukraine allait devenir président de l'Ukraine
aux États-Unis,
Reagan, enfin bon, et je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai des flashs comme ça.
Ça vous arrive souvent d'avoir des flashs prémonitoires?
Ouais.
Ah bon?
Oui. Vous verrez. Alors, il y aura peut-être un jour le président Mbappé.
Bon.
Ce samedi, Sophie Davant reçoit Francis Huster sur M Radio.
Que vous retrouvez au Théâtre des Nouveautés. Allez applaudir Francis Huster et Michel Leeb dans une pièce écrite par Michel Leeb, Les Pigeons. Ouais. Pourquoi vous avez démissionné de la comédie française? C'est justement pour changer de registre?
Tout simplement parce que Pierre Dux m'avait conseillé de rester 10 ans au Français, puisque c'est le contrat d'un sociétaire pendant 10 ans, et de jouer tous les grands rôles romantiques, Musset, Shakespeare, Molière, Racine, Corneille et tout, et que à partir de 40 ans, vous partez, Francis, pour faire une autre carrière, et à la fois à la télé, et à la fois au cinéma, et à la fois dans les pièces modernes et de création. Et je pense que certains acteurs qui sont restés aux Français pendant 2 décades, c'est-à-dire 20 ans au lieu de 10, certains ont commis une grosse erreur. Parce que entre 20 ans et 30 ans, tu es à peu près dans la jeunesse. Après, entre 30 et 40, t'es pas un jeune et t'es pas encore un homme. Et donc, pendant ces 10 ans-là, faut aller ailleurs. Et puis, entre 40 et 50, tu commences ton nouvel emploi. Par exemple, Pierre Ninet a fait à peu près la même chose. Toretton a fait la même chose. Et Lafitte fera la même chose. On est obligé tout d'un coup de pas être le reflet de soi-même, de risquer.
Qu'est-ce que vous avez joué? Vous êtes parti au cinéma après la Comédie
Française?
Après
la Comédie Française, pendant la Comédie Française, j'ai tourné avec Claude Lelouch, évidemment, et aux États-Unis.
Combien de fois avec Claude Lelouch?
Oh là là, 7 fois avec Claude. Mais Claude, on peut le dire, hein, on peut l'affirmer, c'est la plus grande filmographie du monde, puisqu'il a dépassé les 50 films. Et justement, ce qui est passionnant avec Lelouch...
Qu'est-ce que vous aimez en tournant avec lui?
Ce que j'aime en tournant avec l'autre, c'est que je sais qu'il jette ce qui est pas bon. Il tourne énormément, il invente, il y a déjà au moins quelques lignes dans chaque scène, il nous les dit, il nous les donne pas, hein, il nous les dit. Donc on l'entend avec sa caméra à l'épaule et puis il nous dit « je commence à en avoir marre de toi ». « Je commence à en avoir marre de toi ». Voilà, c'est comme ça un tournage, lui dit la phrase et puis nous on l'a dit suivant notre âme. Et ce qui me plaît, c'est qu'on sait qu'on peut prendre tous les risques. Parce que 99% des metteurs en scène sont obligés de tourner le scénario, les dialogues, exactement ce qu'il a décrit, alors que lui, il dévie dans une telle folie, et on y va parce qu'on sait que si c'est pas bien, il le jette. Alors des fois d'ailleurs, il a jeté des scènes, mais sublissimes, mais qui rentraient pas dans l'histoire du film. Et puis, il y a aussi cette chose incroyable, comme il était pendant la guerre d'Algérie, dans son hélicoptère, en train de filmer, il était soldat, mais il filmait la guerre, vraiment en dessous, il y a cette espèce de sensation de risque continuel. Il pourrait filmer normalement une scène, il veut pas. Il la filme comme personne n'aurait pensé la filmer, même lui-même.
Vous avez choisi Grégory Le Marchal.
Alors, Grégory Le Marchal, c'est un peu notre James Dean de la chanson. Sa vie est une tragédie et il a été d'une dignité comme James Dean. Il avait tout pour lui.
On l'écoute, c'est le choix de Francis Huster.
De temps en temps, je craque, sous le poids de l'espérance, je vais parfois à contresens.
Ce samedi, Sophie Davant reçoit Francis Huster sur M Radio.
Francis Huster sur la scène du théâtre des Nouveautés aux côtés de Michel Lev dans une pièce écrite par Michel Lev qui s'appelle Les Pigeons et que je vous recommande. On parlait de votre carrière, Francis. Combien de films à votre actif ?
Plus de 60.
Donc plus que Claude Lelouch. et combien de pièces ?
Oh là là, alors plus de 200.
C'est important d'alterner les projets populaires et des projets plus élitistes. Vous veillez à ça ?
C'est absolument obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut se remettre en question à chaque fois. Tu viens d'avoir un très grand succès dans quelque chose de dramatique, de bouleversant. Fais un film comique. Tu viens de faire un film comique comme par exemple cet homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Lachaud. Eh ben, il serait très bien Lachaud.
Philippe Lachaud,
tout d'un coup. Philippe Lachaud, qui est un peu comme Pierre Richard, était à notre génération. Moi, j'aimerais beaucoup le voir dans un film dramatique. Oui. Un peu ce qu'a fait justement Coluche, qui a eu cette intelligence tout d'un coup de faire un film dramatique où il était sublime. Je crois que c'est cette différence-là qui fait que le public te suit.
Après, vous avez fait des choix magiques quand même. Le dîner de con, par exemple. Ce fou rire du dîner de con, il est absolument irrésistible. Moi je peux pas ne pas avoir un fou rire quand je vous vois rire comme ça.
Mais c'est pas moi devait le faire.
On a l'impression que vous avez eu un vrai fou rire.
Oh non, Jacques Weber devait tourner Don Juan et on se voit au café et je lui dis surtout tu prends bien Villeray pour le rôle de Pierrot qui est magnifique dans Don Juan. Oui, le soir même j'ai un coup de téléphone de Villeray au répondeur me disant je suis content, alors très bien, alors on se verra demain. Weber veut te voir demain matin au Ritz, alors moi je pourrais pas, mais c'est tellement bien, on se retrouve, ah, merci Francine, je t'embrasse. Bon, et donc j'arrive le lendemain et je suis là au bar et tout d'un coup au lieu de voir arriver Jacques Weber, je vois arriver Francis Weber.
Ah ben oui, c'est ça, vous l'avez confondu.
Mais je croyais que c'était Jacques Weber et en fait c'est parce que Villeray faisait le dîner de con et Weber n'avait pas du tout pris Villeray dans Don Juan. Donc je me suis retrouvé là et je me suis retrouvé embarqué dans le dîner de con et ça a été un bonheur extraordinaire.
Très difficile à tourner, j'imagine, parce que Francis Weber, c'est un métronome.
Un métronome, et il a raison à 100%. Il a une virtuosité dans la musicalité du comique incroyable. Ouais. C'est-à-dire que tu dis la phrase d'une certaine façon, tout le monde hurle de rire, tu l'as dit dans une autre tonalité, personne ne rit.
Donc ce fou rire, vous ne l'avez pas vraiment eu, parce que c'est... Il est immense, ce fou rire.
Et en plus, c'était la première prise. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait Thierry Lhermitte en face de moi. La caméra, il tournait à une seule caméra sur moi. Moteur, on fait la première prise. Et Francis dit, écoute, c'est parfait. Mais on va en faire quand même une seconde, parce qu'on sait jamais avec le labo. On en a fait 31. Oh, et au bout de 31, Francis dit, ça va. Non, mais je voulais juste voir si t'allais en louper une. Mais de toute façon, on prend la première. Il est fou.
Alors, vous avez choisi « J'ai encore rêvé d'elle ». Avouez que quand même vos goûts sont très éclectiques. On passe de Grégory Le Marchal à « Il était une fois ».
Oui, parce que « J'ai encore rêvé d'elle », c'est cette tragédie. Mais je trouve qu'elle représente cette époque de la jeunesse où justement des chanteuses ont commencé à exister. Leur personnalité dépasse la chanson elle-même.
J'ai encore rêvé d'elle, c'est le choix de Francis Huster qui reste avec nous jusqu'à 13h sur M Radio.
J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi.
Sophie Davant reçoit Francis Huster jusqu'à 13h sur M Radio.
Et allez applaudir ces deux grands fauves que sont Michel Leb et Francis Huster sur scène. Est-ce qu'ils continuent à écrire ? Est-ce que vous l'avez poussé cette activité ?
Il y a déjà 10 minutes de plus dans la pièce maintenant.
Ah bon ? Il a rajouté ?
Il a rajouté pour faire rire les gens. Comme il a vu que la pièce faisait beaucoup rire, il en rajoute comme auteur. Et c'est un plaisir... De chaque soir de se dire qu'est-ce qu'il va rajouter, qu'est-ce qu'il va refaire.
Et vous alors, quand est-ce que vous écrirez votre pièce?
Alors moi c'est écrit, Et justement, c'est peut-être un des projets que j'ai, parce que j'ai voulu écrire une pièce sur le cinéma. Parce que je suis révolté depuis des années et des années que le prix Nobel du cinéma n'existe pas. C'est un scandale, c'est une honte. Nobel, Alfred Nobel est mort, bien évidemment, en Italie, à San Remo. Jamais il aurait imaginé que le cinéma allait exister au XXe siècle et que les responsables du prix Nobel depuis un siècle aient le culot de continuer à donner des prix Nobel de littérature, ce qui est tout à fait justifié, et pas un prix Nobel du cinéma, c'est une honte. Le cinéma a été au XXe siècle responsable, et politiquement et humainement, d'énormément de bouleversements dans le monde. Ce qu'a apporté le cinéma à l'humanité, en bien comme en mal, puisque des dictateurs, des horreurs s'en sont servis aussi pour hypnotiser.
Donc vous avez écrit une pièce sur ce sujet.
Donc j'ai écrit une pièce sur ce sujet où enfin est décerné le prix Nobel du cinéma, et le récipiendaire vient sur scène et explique pourquoi le cinéma mérite le prix Nobel. Mais je pense faire cette pièce avec un pianiste, ou une pianiste bien sûr, un acteur et une actrice, et voilà. Mais je ne sais pas encore quand ce projet naîtra, et il naîtra.
Dans l'absolu, quel serait votre rêve le plus fou? Si je vous donnais une baguette magique, là, tout est possible, est-ce que c'est partir tourner aux États-Unis avec des acteurs américains? Est-ce que c'est...
Mon rêve le plus fou, je crois que ça serait de tourner justement avec Claude Lelouch, un film qu'on devait tourner il y a des années et qu'on n'a pas tourné, un film historique. Je peux pas dire parce que c'est un secret, mais peut-être qu'on finira par le tourner, ce film-là.
Donc ce serait son 52e
film. Oh, le 53 ou 4, parce que d'ici à ce qu'on le tourne.
J'imagine que vous êtes à l'affiche du 51e.
Oui, on est beaucoup. Mais voilà, avec une baguette, oui, j'aimerais bien que Claude tourne son Si Versailles m'était compté à lui, qui n'est pas sur Versailles, mais voilà.
On va écouter Gilbert Montagnier.
Oui.
On va s'aimer.
J'ai énormément d'admiration pour Montagnier. Parce que le fait de sa cécité fait que cet homme a vu en lui-même.
C'est beau. N'en disons pas plus, c'est magnifique. Et c'est le choix de Francis Huster, Gilbert Montagnier. On va s'aimer sur M Radio.
On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les...
Samedi, Sophie Davant reçoit Francis Huster, actuellement au Théâtre des Nouveautés dans Les Pigeons, aux côtés de Michel Leeb.
Qui prennent un plaisir immense, j'imagine, à se donner la réplique dans une pièce écrite par Michel Leeb lui-même. Une pièce qui a le mérite de vous faire rire, vous allez beaucoup rire en allant les applaudir, et de vous faire réfléchir. Et l'enseignement, alors vous avez eu votre troupe à vous, est-ce que ça vous manque aujourd'hui ?
Ça me manque énormément, bien sûr, mais je suis passé maintenant sur de l'autre côté de la barrière. Je voudrais, dans les 10 ans à venir, faire ces 3-4 grandes séries, mais sur des sujets bien politiques. Puis, oui, c'est vrai, Sablé le Champagne, quand Molière sera officiellement au Panthéon, alors que son âme est déjà rentrée. Ça y est, c'est fini, j'ai fait rentrer son âme pour le 350e anniversaire.
C'est l'un de vos combats, ça.
Oui, parce que c'est indispensable pour la jeunesse qu'on regarde la France en bleu, blanc, rouge. Le rouge, c'est le socialisme, le communisme, le populaire, le peuple. Le blanc, c'est la royauté, et le bleu, c'est la République. Et c'est l'union de ces trois couleurs. Et c'est ça, justement, qui est tellement problématique en ce moment. C'est que ces trois couleurs sont totalement séparées. Donc, la France est déchiquetée.
Quel est le rôle de votre vie avec lequel vous avez été le plus en phase?
Le rôle avec lequel j'étais le plus en face, et celui avec lequel je terminerai probablement ma carrière, j'ai toujours dit que quand je saurai que je vais mourir, je jouerai ce rôle-là, c'est Alceste, le misanthrope. J'ai, comme tous les acteurs qui ont joué ce rôle, eu des moments formidables et des moments où j'étais pas là. C'était impossible. Le rôle, il était parti de scène et impossible de le rattraper. Alors, suivant les acteurs, c'est le premier acte où tout d'un coup on est dedans, ou tout d'un coup c'est le quatrième, ou tout d'un coup c'est le troisième. Et je n'arrête pas.
Pourquoi c'est un rôle qui s'échappe?
Parce que c'est un rôle qui n'est pas un rôle. C'est-à-dire que Molière a pas créé un personnage. Tous les autres sont des rôles. Celui-là, c'est quelqu'un qui, pendant toute la pièce, pendant les quatre premiers actes est sublime, il dit la vérité, il a le courage, de, enfin, comme Hamlet, Alceste est le numéro un du théâtre français, le rôle, et au cinquième acte, c'est une ordure. C'est-à-dire que comment ce type, qui pendant quatre actes dit qu'il faut être vrai, faut lutter contre les hypocrites, les salauds et tout ça, il est magnifique, et tout d'un coup, au cinquième acte, quand celle qu'il aime est trahi par tout le monde l'humilie, Célimène, envoie madame, honteux, vous êtes honteux, au lieu de la prendre dans ses bras et de lui dire je suis là, ce salaud, et il n'y a pas d'autre mot, il dit je m'en vais, salut, je me casse. C'est incroyable comme fin de pièce. Et c'est pour ça que depuis la création, en 1666, il n'y a jamais eu un seul acteur qui a été la légende du misanthrope. Certains étaient magnifiques, comme de Sartre, comme Dux, comme Boutet, etc. Non, c'est impossible d'être à la fois un héros et un salaud. Sauf peut-être quand c'est la fin de David et où te dis « j'en ai plus rien à foutre ».
Donc ce sera votre dernier rôle.
Ça sera mon dernier rôle.
Très bien. Merci d'avoir été mon invité.
Mais merci.
Et on
merci
ira vous beaucoup. Applaudir au théâtre. Enfin, moi j'ai déjà vu la pièce, je me suis régalée. Donc je vous invite à faire de même. Ils sont au théâtre des Nouveautés avec Michel Leeb depuis le 19 janvier. Ça va durer probablement jusqu'à la fin de la saison car c'est un succès. Puis après, vous partirez en tournée avec
oui,
cette pièce.
De janvier à mai 2024.
Merci beaucoup Francis d'avoir été mon invité.
Mais merci beaucoup.
Retrouvez dès maintenant le podcast de Sophie Davant et son invité en intégralité sur mradio.fr.